Bonjour, Françoise Tressart et la belle équipe. En piste, pour la récré de France Culture, à l'affiche, les plaintes de grincheux, suivi d'un échange de lettres de vacances entre Odile Conseil et Lucas Fournier dans le rôle du mari.
Et la marine que tu as trouvée, je l'ai compris, c'est le deuxième mouvement de la mère de Claude Debussy que nous entendîmes ensemble au festival de Ploërmel. Si j'avais su comme la marée était fidèle, j'aurais épousé un joueur de vagues.
Et puis la textée d'Hervé Le Tellier, tout en poème. Et un peu de sport avec Marguerite Yourcenar qui raconte son judo à l'académie. Eva Almassi.
Ces gringalets de dorme sont drus en deux coups, tremblent sous mes prises. Je me souviens comme si j'y étais encore. Étranglement, kuka, han, nagatokata, nevaza, kataminokata, sankuku.
Viendra le roman à quatre pour une histoire d'amour au placard et le pamphlet de Serge Joncourt contre les gens qui sont contre. On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Un numéro des Papous à télécharger pendant un an sur franceculture.fr, rubrique podcast. À réécouter 1000 jours sur la page des Papous de ce dimanche. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Enlevé de rideau, place à un personnage de fiction mécontent de la vie que son papa ou sa maman lui fait vivre au quotidien. Il se plaint, il a le droit et ses raisons. Lucas Fournier, je vous offre une tribune pour raconter. Qui êtes-vous, Lucas ?
Grincheux.
Ah, le nain !
Non, c'est vous qui... Je vous remercie.
On dit des gens de petite taille.
Ça continue. Je vous écrirai après.
Bon, donc là, vous écrivez à votre auteur.
À Disney.
Ah, à Disney. Mmh.
Disney, Grincheux. Je m'appelle Grincheux. J'ai même pas de prénom, vous n'avez pas jugé utile de m'en donner un, donc souffrez que je vous appelle Disney tout court. Je m'appelle Grincheux et je ne suis pas très content. Non seulement vous m'avez donné un petit rôle, faire le nain, à part chez Victor Hugo, ça n'a jamais fait grimper en haut de l'affiche, mais surtout, vous m'avez donné le mauvais rôle. C'est un double traumatisme. Les autres, mes 6 compagnons, ils sont petits, ridicules, mais ils ont un supplément d'âme. Moi pas. Prof se prend pour un Nobel de physique. Dormeur roupille pour oublier sa condition. Au passage, si vous pouviez lui rappeler que dormeur ça suffit et qu'il n'a pas besoin de rajouter ronfleur à son répertoire. Joyeux est toujours sous l'exomile. Simplet, béati paupère et spiritu, ne se rend pas compte de sa situation inhumaine. Timide est en thérapie avec Blanche-Neige, qui va nous le dégeler. Et il y a Hatchoum, mais il se soigne aux huiles essentielles que lui a donné Blanche-Neige, notre naturopathe de service. Hatchoum, qui avec sa manie d'éternuer partout en agitant des mouchoirs douteux, bonjour l'hygiène, m'a infesté de ses micrococcus. Hatchoum! Alors, non content d'être grinceux, je suis en plus enrhumé. Je résume, je suis laid, antipathique, de mauvaise humeur, j'ai un immonde bonnet de schtroumpf sur la tête et mon nez coule. Merci Disney, merci mon géniteur. Vous ne m'avez pas loupé. Et pour que l'ensemble soit homogène, en cadeau, en geste commercial, vous m'avez affublé de citrolles qui chantonnent des hymnes pétainistes, qui ne se lavent pas et qui se font mener par le bout de leur gros nez plein de vergétures par une princesse d'opérette, minaudeuse et mijaurée, maquillée comme un passeport serbo-croate et qui ressemble à une réclame pour produits de beauté dans un hard discount. Je veux bien râler, puisque c'est mon emploi, mais ce qui m'est fait le plus râler, justement, c'est la nullité de mon personnage. J'espère que vous l'avez fait exprès, parce que me rater à ce point-là, ça tient du chef-d'œuvre. Je comprends que pour le casting, vous ayez besoin d'un affreux. Alors faites-moi en véritable affreux, en désagréable, ignoble, en méchant authentique, pas en rouspéteur de comptoir de sous-préfecture. Je ne dis pas ça pour moi, je le dis pour l'histoire, parce qu'elle est minable, cette histoire. Le scénario ne tient pas debout, surtout la fin. La pomme, l'allégorie du démon et d'Ève, et le coup de la belle endormie Jean Ophélie, c'est du réchauffé. Faudrait voir à revoir tout ça. Bien sûr, chez vous, les Américains, l'argent, il y en a, mais les idées, c'est autre chose. Alors, supposons que vous me fassiez un personnage genre Iago, Au moment où le prince charmant arrive, je préviens Timide, qui est secrètement amoureux de Blanche-Neige, et hop, il les surprend. Et là, Timide étouffe Blanche-Neige en lui vidant un seau de charbon dans la bouche. Le charbon, Blanche-Neige, le film en noir et blanc, genre Lars von Trier.
Ah ouais.
Et le titre dit Idioten.
Idioten.
Oui. Ou alors, je peux aussi vous faire le Thénardier. La sorcière et moi, on s'installe avec la petite et on la maltraite en l'obligeant à porter des seaux de charbon toute la journée dans la forêt. Si le film marche, on en fera une comédie musicale à Broadway et je chanterai « I'm grumbling in the rain ». Ou alors je fais l'ours. Quitte à passer pour un grognon, je deviens moi-même un ours. Et quand la Blanche-Neige arrive, comme boucle d'or chez les trois ours, encore une idée que vous avez piquée ailleurs, bonjour les plagiaires, je me jette sur elle, je la viole, je l'égorge et pour ajouter un peu de piment à l'histoire, je vous la découpe en morceaux et je la sers façon ragoût de mouton à mes six petits compagnons, ils vont adorer. On sera dans du Peter Handke version Tarantino. Ça peut cartonner. Maintenant, achoum ! Merci de m'avoir collé chez les tubards. Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne suis pas à votre place à gagner des millions de dollars en racontant des fariboles. Parce que moi, le grincheux, supposez que d'un coup, je devienne le gracieux. Là, vous seriez mal. Hein. Je peux le faire. Je mets un sourire dans ma voix. Je danse avec la gamine sans lui marcher sur les pieds et je parle aux oiseaux. Et vous voilà bien embêté. Et c'est vous qui allez râler. Alors dépêchez-vous. Je timbre cette lettre en service rapide, même si rapide et poste, c'est un oxymore. J'espère qu'elle va vous arriver vite et que vous allez me répondre de même. Je ne vous serre pas la main. Grincheux.
Oh, il n'est pas si antipathique, hein. Il en rajoute un peu, quoi. Non.
Oui. Puis il a débossé des scénars, je pense qu'il a ses chances à Hollywood.
Oui. Jacques Bertrand, vous êtes Walt Disney.
Yes.
Himself. And so, what do you think? Oui.
Oh. Oh, mais j'écris...
À Grincheux.
Mon ami Grincheux.
Ah, c'est un copain, quand même.
Chère créature, votre lettre... aurait de quoi me désespérer si je n'avais su, au cours de ma longue carrière, m'habituer à l'ingratitude des personnages. Les Anglais disent « character ». Et nul doute que vous l'avez mauvais. Mais vous n'avez rien compris. Vous êtes mon préféré, cher Grumpy.
Ah, ben voilà.
Dans l'ensemble de mon œuvre, peuplée de gentillesse dégoulinante, de bonne volonté, de sentimentalisme à trois pence, des bambis, des Dumbo, des bonnes fées un peu enveloppées, des souris en couturière, des panthères bonnes copines et des ours bonhommes, des belles un peu bêtes et des bêtes à la beauté cachée. Vous êtes, my dear, ma soupape de sécurité. Car au fond, je suis misanthrope, naturellement. L'homme sous couvert de philanthropie prétend faire le bonheur de l'homme et développe les pires idéologies mortifères. J'ajouterai qu'en outre, l'humanité est généralement très mal dessinée. Franchement, il y a de quoi être pour le moins de mauvaise humeur. Comme dirait Gustave, grincheux, c'est moi. Appelez-moi Walt.
Les noirs des seins, comme on dit.
C'est une très belle réponse. Mmh. Alors, grincheux, on pense quoi?
Il est gracieux maintenant.
C'est vrai. Il est tout transformé.
Ah oui.
Le joli mois de mai, avec sa pluie qui coule sur le muguet et nos lilas, et cependant ce désir d'évasion qu'il fait naître en nous, en mai, fais ce qu'il te plaît. Tous ces week-ends incitent au voyage, partir pas toujours loin, ni longtemps, mais voilà, partir. Avec parfois cette pointe de culpabilité à l'égard de ceux qui restent. Alors, on envoie un SMS pour rassurer, bien arrivé, à très vite. On passe un appel depuis son mobile. On décolle dans 10 minutes, histoire de ne pas perdre le fil. Mais il y a ceux qui prennent le temps d'écrire une vraie lettre. Bravo, ils sont rares, qu'ils soient partis ou restés. C'est votre cas, Odile Conseil ?
Je suis partie.
Oui.
Je suis partie et j'écris, j'ai un mari qui a dû rester, lui, parce qu'il a du travail, mon mari.
Ah, mais c'est comme ça, les hommes travaillent, c'est ça, et les femmes ne font jamais rien, on
c'est
dira
bien connu,
ça,
c'est bien connu.
Connu, oui.
Et donc j'écris à Jean-Sébastien. Jean-Seb, mon chéri, un SMS serait bien trop court pour que j'arrive à exprimer la palette de mes sentiments, l'exaltation qui m'a saisie après l'expérience que je viens de vivre. Et t'écrire un courriel que tu lirais à la va-vite au ministère entre deux messages professionnels, non, certainement pas. D'abord, merci à toi d'avoir accepté de t'occuper des enfants pendant mon escapade vacancière. Merci à toi d'assister au spectacle de danse des jumelles dimanche et au tournoi de rugby de Lucas. N'oublie pas qu'il a visite médicale au collège lundi. Il doit avoir son carnet de santé avec lui. Il est rangé dans le deuxième tiroir en partant du bas de la colonne de droite du meuble de l'entrée. En D4, si tu préfères.
C'est beaucoup plus simple.
C'est un tract de revendication. C'est pas une lettre, ça.
Merci surtout d'avoir pu, grâce à tes relations, m'obtenir une visite privée de la grotte Chauvet, la vraie, celle qui est définitivement fermée au public, tel un trésor extrait du fond de l'océan que seuls quelques privilégiés auront pu voir avant qu'on le rende à la mer, telle une lettre d'amour d'Adam à Ève repliée pour toujours dans son enveloppe, de peur que l'encre ne s'efface. Mais je retarde le moment de te dire à quel point ça a été une expérience formidable, marquante, bouleversante. Le petit restaurant installé à trois pas de la grotte est tout simplement extraordinaire. Tu n'imagines pas à quel point tout était délicieux, sublime, succulent, exquis, fameux, enchanteur. J'aimerais m'y tonner des adjectifs qui diraient le bonheur que j'ai eu à y manger. C'était supercalifragilisticexpialidocious et même hypercalifragilistique. En entrée, j'ai pris une terrine de sanglier au cognac à se damner, parfumée, puissante mais délicate au palais et goûteuse, goûteuse. Le pâté de foie de ta mère en a pris un coup. Largement distancé, son fameux pâté de foie, vous m'en direz des nouvelles. Je me suis, après cela, laissé convaincre d'essayer une spécialité locale. De la panse de porc farcie de chair à saucisse, de choux et de pommes de terre. Ici, ils appellent ça la maoche. La maoche, c'est beau, c'est bon. Waouh ! Manger cela, c'est s'imprégner du paysage, c'est absorber le paysage alentour, sentir le goût des forêts, la substance de la terre, le croquant des feuilles, le fondant des ruisseaux, la vivacité des papillons et des oiseaux. Oui, Jean Seb, tout cela dans une panse de porc, avec seulement deux verres d'un vin qui fait couler du soleil jusqu'au fond de l'âme. Oui, de l'âme, Jean Seb. Au dessert, il y avait de la tarte aux fraises. Tu sais comme ça peut être bête une tarte aux fraises,
c'est
comme
vrai,
ça.
C'est classique, oui, oui.
Comme ça peut être étriqué, insignifiant, sans âme, mesquin. Celle-ci était belle, que dis-je belle, intelligente, sensible, gracieuse, lumineuse, parfumée, spirituelle, généreuse. J'en suis sortie grandie, meilleure. Et ce n'était pas fini. Figure-toi qu'à côté de l'hôtel, une boutique de fringues affichait sa dernière journée de solde. Eh bien ça aussi, ça a été extraordinaire, magique, inouï, inespéré. J'ai trouvé là ce qu'on ne trouve plus à Paris. Un ensemble d'été absolument ravissant et tout à fait unique. Trois chemisiers ahurissants d'originalité. Deux jupes et un pantalon dont je ne te dis que ça. Pour un prix, somme toute, incroyablement modique. Quant à la délicieuse Marine que j'ai trouvée chez l'antiquaire, elle ira très bien dans le salon au-dessus du canapé avec les deux appliques monumentales en coquillage que j'ai arrachées à l'issue d'un âpre marchandage. Il faudra bien sûr trouver une autre place pour la nature morte de ton oncle. Peut-être dans le couloir, au fond, à gauche.
Vous quelle êtes journée près du divorce, non? Enfin, ça va pas fort quand même entre vous.
Moi là, ça va très bien en tout cas.
Moi, je trouve que c'est le contraire.
Ah bon?
Ah oui.
Ah oui.
Ce petit couple se reconstruit là.
Ah. Quelle journée! Mais quelle journée! Je ne vais d'ailleurs pas rentrer demain comme prévu.
Ah oui.
Le fils du concierge de l'hôtel, un grand gaillard qui fait de la spéléo, m'a proposé de l'accompagner demain. Je ne peux pas rater cette occasion de découvrir de nouvelles sources d'émerveillement et de me cultiver, tu comprends. Dis aux enfants que je les embrasse et prends bien soin de toi, Babette.
Dites-moi, Lucas Fournier, vous seriez Jean Seb?
Je suis l'époux de Babette.
L'heureux homme?
Oui.
Enfin, vos rapports ont l'air un peu tendus.
Non, très heureux.
C'est vrai?
Très, très
vous
heureux.
Vous lui répondez?
Bien sûr, parce que...
Parce que vous l'aimez?
Parce que... Non,
non, pas vraiment.
C'est pas le mot.
Beaucoup plus que ça, parce que ta lettre, Babette, est une révélation. Non, une révolution. Longtemps, tu as fait semblant d'être cette femme futile, ignorante, complexée, quadragénaire avancée, sotte parfois, occupée de rancœurs ménagères, vibrant aux ouvrages de David Foekinos et de Catherine Pancol, et adepte du yoga et du lait de soja. Mais, en te lisant, j'ai compris enfin que nos âmes se touchaient. Les autres vont chez Chaumet, toi tu choisis Chauvet, et ces retrouvailles avec l'homme primitif dans cette caverne platonicienne m'offre une herméneutique de ton être profond qui dévoile et ta sensibilité exquise et ta culture jusqu'ici inexprimée.
Oh, quel salaud.
J'ai goûté ton banquet, Babette. Platon est encore là. La maoche que tu as aimée, la maoche en panse de porc. La pensée n'est pas loin.
c'est ce plat décrit par Maurice Genevoix dans La dernière Harde, mon livre de chevet. De chevet à chauvet, à chauvet, tu penses de porc à moi. Ah, quel frissonnant érotisme t'habite. Ah, et ces jupes d'été, je les reconnais. Elles sont dans le sonnet de nouveau que j'aime tant. Des amours du blond et de la brune, il n'est resté de trace aucune. Pas une chemise d'été. Si, il y aura celle que tu porteras pour moi. Et la tarte aux fraises, Babette, l'Albertina de Venise, tu t'en souviens donc, cette œuvre délicate de Rudolf von Grossenberg, dont je redoutais que tu l'eusses oubliée, la tarte aux fraises. Mais non, elle est dans mon cœur et dans ton estomac. Et la marine que tu as trouvée, je l'ai compris, c'est le deuxième mouvement de la mer de Claude Debussy que nous entendîmes ensemble au festival de Ploermel. Si j'avais su comme la marée était fidèle... J'aurais épousé un joueur de vague, disait Ai Kun Sun, mon poète favori. Et tu le savais, tu t'en es souvenu. Et la spéléo, Babette. Voici que tu croises Nerval. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes. Mon front est rouge encore du baiser de ma reine. Ah, Babette, béni soit ce jour. Béni soit cet homme primitif qui, traçant quelques signes sur la paroi de sa grotte avec une branche noircie de suie, a écrit sans le savoir la première page de notre amour transfiguré, renouvelé. Jean Seb. PS, finalement, c'est ta mère qui a pris les gosses.
et peut-être qu'il ne voit pas tout, hein, parce qu'il peut être aussi au Danemark, avec le festin de Babette.
On aimerait toutes la voir comme Marie, sauf pour la fin, à mon avis, et pour le début aussi.
Non, mais je vais peut-être rentrer plus tôt que prévu.
Mais quelle culture, quelle culture.
Donnez-lui une baffe quand même pour le début de sa lettre, au nom de toutes les femmes.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas d'âme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune. Près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes. Près d'un mari à tête ronde. Près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Au paradis, y a plus de flammes. Au paradis, s'en vont les âmes. Alors elles crèvent d'ennui et se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre. Elles rêvent à la fermeture éclair. Qu'elles remontent d'un air si fier. Elles rêvent des divans profonds entrevus dans les garçonnières. Mon Dieu, pourquoi fiche des manières. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard pour tendre son mouchoir. Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Certains curés tombent les dames, même parfois les nonnes s'enflamment. Pour d'abominables hommes des plages qui les entraînent à la nage, amours aquatiques et sauvages. Faites la vie d'âmes honnêtes, quatre ridettes et honnêtes. Plus tout le monde me zoronne, vous êtes sur la map monde pour faire plaisir à tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard pour mordre son mouchoir.
Jeanne Moreau, la vie s'envole.
Des papous dans la tête, vous les écoutez sur France Culture.
Oui.
Et oh, Lucas, c'est le temps de la textée. C'est un nom qui vous a un petit côté sérieux, textée. C'est le nom choisi par Jacques Jouet lorsqu'il a adapté ce jeu de la piquetée du peintre Olivier Olivier. Pourtant, c'est un jeu rigolo, très excitant pour l'esprit. Un jeu qu'il faut respecter pour le réussir, pas question de contourner la règle. Olivier faisait dessiner, avec la textée on fait écrire. On dicte une histoire, poème, prose, chanson, mais avec d'autres mots que ceux de l'auteur. Celui qui imagine le texte de la textée procède par image, homophonie, métaphore, comparaison et autres figures de style pour dire sans révéler. À ceux qui se soumettent à sa dictée très spéciale de réfléchir et puis de laisser aller leur imagination pour écrire à leur tour. Alors, Hervé Le Tellier, vous avez préparé une feuille de route, c'est ainsi que l'on nomme la liste des injonctions proposées. Jacques Vallée et Lucas Fournier écoutent et ils écriront ensuite. Hervé.
C'est un texte assez court.
Oui.
Avec vraiment des phrases très très courtes, une sorte de système en vers libre. Mm-hmm. Et qui, évidemment, la textisation est infiniment plus long. Donc, il ne faut pas se fier trop à la,
À la rédaction de vos consignes.
De mes propres consignes.
D'accord. Vous n'avez pas su faire synthétique ou pas voulu.
J'ai choisi un mode de présentation qui ne peut pas être extrêmement court. Je fais un petit poème pour aider mes camarades.
D'accord, d'accord.
On choisira d'abord un sujet très banal, sujet qu'on nommera avec simplicité, avant de le placer bien à l'horizontale et de lui faire subir un supplice oublié. Première consigne.
Ça
représente combien de...
Deux mots.
Grandeur de texte.
Trois, quatre mots.
Voilà. Non, mais rassurez-les tout de suite, regardez.
Trois, quatre mots.
Ouais, il dégouline le carré liquéfie.
Non, 3-4 mots, c'est pas très.
Non,
c'est 5
ils n'ont qu'une petite demi-heure, petite demi-heure.
Alors, ensuite, quelques mots encore. Agissez aussitôt d'une manière idiote, espérez néanmoins que cette action ballotte aura sur le sujet l'effet miraculeux de lui rendre un aspect pour le moins merveilleux.
Comment vous recevez les vers d'Hervé Le Tellier, Jacques Bertrand? Parce qu'il est parfois très critique avec certains vers, ils sont bien, non?
Oui, ça me paraît très bien, oui. très classique.
Et oui.
C'est un peu une idée de temps en temps.
Bonne facture. Ouais.
Posez une question qui prouve qu'au collège, vous étiez en chimie, disons-le, plutôt lège. Montrez que vous savez jouer la métaphore et que la prosodie est assez votre fort.
Oui.
Introduisez ici un second personnage, simple métonymie, par un bout du visage, dont vous évoquerez l'aspect plutôt navrant, en raison, peut-on croire, d'un manque de beau temps.
Oui.
Oui, bon. Parlez ici du ciel, hélas incomestible, et mettez en contact deux parties très sensibles. Montrez en une phrase et de manière alerte qu'avec le temps qui passe, il y a toujours de la perte.
En fait, on a écouté son poème, on ne sait pas trop à chaque fois combien il y a de phrases, combien il y a de mots par consigne, mais ça c'est votre problème
c'est très
à tous
court,
les deux.
C'est très court.
Oui.
Ça ressemble à une textée à l'envers, comme s'il avait eu des indications et qu'il avait fait un texte.
Voilà.
Oui, oui. Peut-être qu'il a fait comme ça, parce qu'il est oulipien, Hervé, donc il a tendance à se compliquer la vie un petit peu, pas du tout.
Balancez tout de go le nom d'un grand artiste, puis une courte phrase qui peut paraître triste en parlant du sujet que l'on n'a pas quitté. N'hésitez surtout pas, faites dans le cliché.
Bon, ça, alors on vous guettera sur le cliché.
Oui, ça, vous devriez
ça
pas avoir de mal.
Régal.
C'est pas un truc qui vous arrête.
Non,
donc, bon,
au contraire.
Hein. Abordez désormais la dimension tactile et montrez qu'à la longue, il est très difficile de maintenir un truc dans un état donné, surtout lorsque ce truc est déjà bien usé. Bien. Donnez un ordre bref et même surprenant, comme si d'un seul coup tout devenait urgent. Exiger que ce dont il est ici question s'accomplisse soudain en une unique action.
Ça me dit quelque chose,
ah oui.
Ça.
Ah
ouais.
Bon. Mais moi, je ne joue pas. Très bien, je suis content que ça vous dise quelque chose. J'espère que ça leur dit également à eux.
Oui.
Pas encore, mais ça va venir.
Non, mais ça va venir très bien.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous avez une question à poser à Hervé Le Tellier?
Non, quel est le supplice ancien que vous avez évoqué?
Un supplice oublié.
Oh, vous avez le
choix. Très utilisé, il y en a plein qui sont oubliés. Hein.
C'est là oublié.
Ça rime, alors c'est des vers.
Non, ça rime pas, ça rime pas. Parfois ça rime, ça rime un petit peu parfois. C'est des rimes, disons, libres dans le sens où c'est vrai que parfois il y a des retours de rimes, mais pour autant la prosodie n'est pas régulière. Donc,
voilà. Ça pourrait être une chanson.
Ça pourrait être une chanson.
La textée est prête, Lucas Fournier, Jacques Vallée, vous êtes content de vous?
Pas mécontent.
Jacques?
Quoi? Non mais content.
Content. Très bien.
C'est bien parce que c'était spontané, c'était le cri du cœur, ouais. Jacques Vallée. Alors on va reprendre les injonctions si jolies, si poétiques.
Mais oui.
D'Hervé Le Tellier.
On choisira d'abord un sujet très banal, sujet qu'on nommera avec simplicité, avant de le placer bien à l'horizontale, et de lui faire subir un supplice oublié.
Ça donne quoi, Jacques Vallée, tout ça?
Aime-moi, c'est banal, c'est comme le pâle.
Ah, le supplice du pâle, oh là là, Et vous aimez, c'est comme ça, dites donc, c'est pas, ça donne pas
envie. Après, je vais l'expliciter.
Oui, oui, ça commence bien, ça finit mal, comme disait José Bluquy.
Et pour vous, Lucas Fournier?
Prenez une dinde, couchez-la dans un plat, et de 20 gousses d'ail, farcissez-la bien.
Et le supplice
oublié, farci d'ail, vous savez, c'est quand même...
Ouais, ça se ressemble. Hein.
Bon, qui est proche, qui est loin?
Oh, ils sont assez éloignés, mais ils obéissent bien à la consigne.
Bon, très bien. Ensuite.
Agissez aussitôt d'une manière idiote. Espérez néanmoins que cette action ballotte aura sur le sujet l'effet miraculeux de lui rendre un aspect pour le moins merveilleux.
Alors, cet amour, Jacques Vallée...
Ça commence par un baiser qui peut vous faire léviter.
C'est vrai, c'est vrai. Léviter de lévitation.
Voilà, exactement.
C'est bien de le préciser quand même, Lucas Fournier.
Verser par-dessus, non pas la béchamel, mais de l'eau de Chanel. Avec l'ail, ça rajoute a touch of class.
Ah, on voit que c'est l'heure du déjeuner. C'est vrai, on a une émission qui tombe à l'heure du déjeuner. Alors oui. On a tous un petit peu faim. Il y en a un qui est plus proche, plus loin. Hervé.
Là, ils s'éloignent tous les deux de conserve, comme on dit. Voilà. Posez une question qui prouve qu'au collège, vous étiez en chimie, disons-le, plutôt lège. Montrez que vous savez jouer la métaphore et que la prosodie est assez votre fort.
Alors, Jacques Vallée.
Ça peut finir par exploser comme un mélange de salpêtre et de soufre ou comme une chute au fond d'un gouffre.
C'est l'amour vache, hein, c'est, je sais pas, c'est particulier, Lucas Fournier.
Mendeleïev ne dit-il pas, les agnons de Chanel frayent avec les cations de l'ail de Beaumont comme font dans les fjords les frétillants saumons.
Oh, bon, oui, mais ça, c'est pas du tout léger en chimie, maîtrise son sujet.
La prosodie est son fort, oui, quand même. Introduisez ici un second personnage, simple métonymie, par un bout de visage, dont vous évoquerez l'aspect plutôt navrant, en raison, peut-on croire, d'un manque de beau temps.
Alors, Jacques Vallée.
Quand tu fais la gueule comme ta mère, alors le temps devient sévère et le ciel indigeste se couvre.
Ben, le second personnage... Hein.
Et ce temps perdu jamais ne se retrouve. J'ai fait les deux strophes à la fois.
Oui, non, mais c'est bien. C'était une très bonne idée. Et puis le texte vaut le coup, Lucas Fournier.
Le nez de Cléopâtre, quand il est enrhumé, s'il pleut, s'il est goûteux, ignorera toujours ce doux mets parfumé.
Mmh. Ah oui, on sent pas l'ail quand on est enrhumé, oui. Non.
Effectivement.
C'est vrai, c'est dommage.
Alors on est loin, mais c'est pas grave. Parlez ici du ciel, hélas, incomestible, et mettez en contact deux parties très sensibles, montrées en une phrase et de manière alerte, qu'avec le temps qui passe, il y a toujours de la perte.
C'est très donc joli. Moi, c'était mon ciel indigeste qui se couvre et ce temps perdu jamais ne se retrouve.
Eh oui, ah ben oui, évidemment. Lucas Fournier.
À l'abri des nuages, embrochez la bestiole par l'arrière et l'avant et faites-la tourner. La graisse goutte à goutte s'en va comme le temps.
C'est vrai que c'est un supplice pour la bête.
C'est vrai. Elle est morte, hein, quand même.
Oui, d'accord.
Consolation. Balancez tout de go le nom d'un grand artiste, puis une courte phrase qui peut paraître triste en parlant du sujet que l'on n'a pas quitté. N'hésitez surtout pas, faites dans le cliché.
Alors, ce cliché énorme, Jacques Vallée?
Oh, je sais, mon Charlot, c'est pas très rigolo, mais l'amour est aveugle.
C'est le cliché.
Oui.
Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, il n'est pas si énorme que ça, il est classique, disons. Le cliché, Lucas.
C'est du Bach. Tic, tac, tic, tac. Tourne, broche, tourne. La dinde est ma pemonde, la dinde se fait blonde.
Ah, c'est joli, hein. Où il est le cliché? La dinde blonde, il est blonde, évidemment. Ah, oh, toujours.
Ah oui, c'est ça le cliché. C'est ça le cliché.
Ah oui, ça.
Vous êtes rousse, évidemment, ça, vous pouvez le comprendre.
Je ne connais pas, heureusement. Après, Hervé.
Aborder désormais la dimension tactile et montrer qu'à la longue, il est très difficile de maintenir un truc dans un état donné, surtout lorsque ce truc est déjà bien usé.
Alors, c'est quoi, Jacques Vallée?
Alors, il suffit qu'on se caresse, même si la tendresse finit toujours par lasser.
Pas mal.
On rejoint là quelque chose.
Pas mal, là on est pas mal.
Et vous trouvez ça juste? La tendresse finit par lasser, Jacques Vallée?
J'ai respecté les ordres d'Hervé. Oui, alors, oui. Ça doit être la pensée d'Hervé.
Voilà, vous n'avez je rien suis... mis de Jacques Vallée là-dedans.
Non, absolument pas. Oui, je n'aurais pas pensé.
Ouais. Ouais, alors, les blondes, les dindes, Lucas Fournier, on les retrouve.
Le temps passe et la peau rissolée, craquelée, à la pointe du couteau se déchire. Après 5 heures de cuisson, la dinde se fait graillon.
Oui, il faut la manger avant, écoutez.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est là que donner un ordre bref est même surprenant, comme si d'un seul coup tout devenait urgent, exiger que ce dont il est ici question s'accomplisse soudain en une unique action.
Alors, oui, c'est ce qui me disait quelque chose, moi.
C'est
Jacques Vallée.
En une unique action qui n'est pas très facile à prononcer.
Non, non, c'est vrai, mais vous l'avez très bien dit. Mais
oui. Bon, l'ordre soudain surprenant. Bon, tais-toi, viens, aime-moi vite.
Brisons-la. Ouais. Lucas.
Alors, mangez-la tout de suite.
Ben, voilà, c'est exactement ce que je me disais.
Allez, c'est pas... Eh bien, voilà, on est assez proche, là, dans la dimension...
Dans la fin.
Oui. Alors, le texte
écoutez,
original...
Non. On va d'abord écouter leurs très jolis textes.
Sans qu'ils sont, quand même.
Il faut les écouter sans les interrompre. D'abord, Jacques Vallée, avec ce côté bougon du personnage qui ne lui ressemble pas du tout Jacques.
Non, pas du tout. Aime-moi, c'est banal, c'est comme le pan. Ça commence par un baiser qui peut vous faire léviter et ça peut finir par exploser, comme un mélange de salpêtre et de soufre. Ou comme une chute au fond d'un gouffre. Quand tu fais la gueule comme ta mère, alors le temps devient sévère. Le ciel indigeste se couvre et ce temps perdu jamais ne se retrouve. Je sais, mon Charlot, c'est pas très rigolo. Mais l'amour est aveugle, alors il suffit qu'on se caresse, même si la tendresse finit toujours par lasser. Bon, tais-toi, viens, aime-moi vite.
C'est monstrueux. Mais très bien envoyé, hein. Ça c'est vrai. C'est moche, oui. C'est moche. Bon, la petite dinde, le repas de Lucas Fournier.
La recette.
Prenez une dinde, couchez-la dans un plat, et de 20 gousses d'ail, farcissez-la bien. Versez par-dessus non pas la béchamel, mais de l'eau de Chanel. Avec l'ail, ça rajoute a touch of class. Mendeleïev ne dit-il pas, les agnons de Chanel frayent avec les cations de l'ail de Beaumont comme font dans les fjords les frétillants saumons. Le nez de Cléopâtre, quand il est enrhumé, s'il pleut, s'il est goûteux, ignorera toujours ce doux mets parfumé. À l'abri des nuages, embrochez la bestiole par l'arrière et l'avant et faites-la tourner, la graisse goutte à goutte s'en va comme le temps. C'est du bac. Tic-tac, tic-tac. Tourne, broche, tourne. La dinde émappe monde. La dinde se fait blonde. Le temps passe et la peau, rissolée, craquelée, à la pointe du couteau se déchire. Après 5 heures de cuisson, la dinde se fait graillon. Alors mangez-la tout de suite.
À table. Alors, qu'est-ce que vous avez tenté de texter à travers votre joli poème, Hervé Le Tellier ?
Passez notre amour à la machine. Faites-le bouillir. Pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir.
Souchon.
Oui, franchement, agissez d'une manière idiote, faites-le bouillir. Voilà.
Oui.
Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant ?
Ça, l'eau de Javel, ça rime avec l'eau de Chanel.
Oui, Chanel, Javel. On proposera la chose à la maison Chanel, ça peut. C'est une bonne idée. Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Ça, c'est tant d'azur perdu, c'est montrer en une phrase et de manière alerte qu'avec le temps qui passe, il y a toujours de la perte. Ensuite, balancez tout de go le nom d'un grand artiste. Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse, alors elle passe.
C'est Jacques Vallée qui est assez proche
avec
les caresses. Sauf que chez Souchon, il y a de la nostalgie et chez Jacques Vallée, il y avait une espèce de violence.
Voilà.
Quand même,
et ensuite, l'ordre bref, même surprenant, etc., etc., c'est aller à la machine. Et c'est pas loin du tout de aller, on la mange.
Eh oui, passez votre amour à la machine de Souchon. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, le supplice oublié, peut-être.
Oui, oui.
On ne s'en souvient pas, mais il fut un temps où on prenait un tonneau.
Oui.
On mettait des clous, on tapait des clous dans les planches, donc le tonneau contenait des clous qui étaient tous pointés vers l'intérieur. On mettait quelqu'un dedans et on poussait.
Ah, mon Dieu, c'était à quelle époque, ça?
Ben, en fait, assez tardivement, jusqu'au 14e siècle et 15e siècle, en Italie. C'était un supplice qu'on imposait aux Juifs.
Ah bon?
Ouais.
Quelle horreur.
Quelle horreur.
Ouais. Petit commentaire, Jacques Bertrand.
Ben moi, je trouve que le texte de la textée est à la limite supérieure au texte.
qui a été texté.
À la limite, c'est
une espèce c'est une espèce de sens universel.
Oui, oui.
Qui ça s'adapte aussi bien, apparemment, à l'amour qu'à la cuisson de la dinde, donc. Ouais. Ce qui finalement est assez proche quand on y pense.
Passez notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel, hein, les sentiments, la blanche qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, ses bleus difficiles, les caresses rouges, fragiles, le soleil de la vie n'est tabac. Et alors, elle passe.
Sylvie Vartan et Alain Souchon, passez votre amour à la machine. Les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. Et le sport, eh bien, il est partout en mai, juin, juillet. Le tennis à Roland-Garros, c'est dès aujourd'hui. Et puis viendront Wimbledon, les quarts de finale de la Coupe Davis, le Tour de France, j'en passe. Je ne maîtrise pas le calendrier de tous les sports. Mais ces temps de rencontres sportives sont l'occasion pour tous de raconter leur amour, voire leur addiction au sport, sur le terrain ou devant la télé, c'est plus facile. Chacun a une anecdote à raconter aux journalistes. Tel ministre a joué au foot, en minime. Tel écrivain a fait du curling. Et oui, nous avons découvert il y a quelques années, grâce à Jacques Vallée, que Jean-Paul Sartre était préposé, vous savez, au petit balai pour faire avancer la pierre le plus vite possible sur la glace et qu'elle se rapproche de la maison. Bref, le sport ne laisse personne indifférent, pas même vous, Eva Almassi. Vous avez découvert, je crois, un nouveau témoignage d'une personnalité de la littérature qui s'était penché sur son goût pour un certain sport. Alors, c'est qui?
C'est Marguerite Yourcenar.
Ah oui?
Oui, oui, oui.
Je crois qu'au Papou, elle a déjà fait du sport, d'ailleurs. Mais c'est une femme qui adorait faire du sport. Hein. Oui. Ah, donc, c'est normal.
Elle
est très physique.
D'ailleurs, même là, elle navigue entre les sports.
C'est un fragment de son journal que vous avez retrouvé?
Oui. Oui, j'aime beaucoup ses écrits autobiographiques, plus encore que les romans.
Et puis, vous avez séjourné au Mont-Noir, chez elle,
bien
en plus.
Sûr.
Donc, vous êtes imprégné de l'ambiance.
J'ai fouillé dans les ruines du château.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit?
Petite, j'avais les cheveux longs et je vivais dans un pays où soufflaient des vents à décorner les bœufs. Même pas peur, je décidais de saisir le taureau par les cornes et devenir la première femme torero en habit de lumière qui moule votre académie de près. Hélas, j'ai dû vite déchanter. Les toreras, ça existait depuis des siècles. Après l'Espagne, pays du soleil couchant avec ses taureaux couleur de nuit, j'ai fait le grand écart pour choisir le pays du soleil levant, le Japon, pour sa tradition des arts martiaux. À défaut d'être la première femme ceci ou cela, j'ai opté pour une discipline où je pouvais exceller à l'égal des hommes et les mettre sur le dos. J'ai commencé à pratiquer le judo, qui, comme chacun le sait, est l'abréviation de « just do it ». Judo.
Ah oui, ah bon,
voilà.
Bah, oui, c'est vrai, on n'est pas loin. Oui.
Elle n'était pas traductrice d'anglais pour rien, ni spécialiste du Japon, n'est-ce pas? Au dire de tous, j'étais une jolie judoka, progressant rapidement, 48 kilos, 57 kilos, 63, 70. De mon passé éphémère de Torreira, je n'ai gardé que la fine moustache, aguichant les donjuans des dojos, affolant les tartuffes des tatamis, car nous y pratiquions ensemble le judo mixte. Dans ma fédération du Nord, on préconisait que les espoirs s'entraînassent souvent en plein air. Frotté à l'herbe fraîche, mon kimono blanc se teintait en habit vert. Comme on combattait entre filles et garçons, j'y allais une contre 40. Tous ces garçons me saluaient et m'honoraient, et moi aussi je les honorais, debout ou à genoux, comme l'exigeait notre discipline. Mes respects, mes respects. Les gestes parfaits, voilà ce que je visais dès le départ. Le style, la maîtrise, la précision. Jamais ce ne fut un vain combat. Une réminiscence de mes premiers désirs taurins fit que je voulusse pour trophée les oreilles et la queue, administrant le coup de grâce à l'adversaire que je contrôlais en position quadrupédique entre ses jambes. Ses gringalets de d'Ormesson, druons, de co, tremblaient sous mes prises. Je me souviens comme si j'y étais encore. Étranglement, koka, han, nagatokata, nevaza, kataminokata, sankuku, vaincre par ippon. Plus tard, féministe de la première heure, il m'arrivait de pratiquer d'autres sports, jouer comme footballeuse, comme hockeyeuse, comme rugbywoman et comme lutteuse gréco-romaine et coureuse de marathon, afin d'imposer au public une certaine image de la femme, laissant la Formule 1 à François Sagan. Mais jamais, nulle part, je n'aurais eu les mêmes sensations qu'en judo, dont je conserve ma ceinture noire, à laquelle s'accroche désormais comme une fatalité le bicorne, la cape et l'épée. Si seulement j'usais de ma force, de ma souplesse et de mon poids d'aujourd'hui contre mes collègues masculins, Nagatokata, Koka, je les chevauche, balaye, désarçonne, un tatami kekonti, ça vous apprendrait l'amitié, le courage, la sincérité, la modestie du jamais vu sous la coupole.
Ah oui, c'est une intellectuelle, elle ne peut pas s'en empêcher, même quand elle raconte le sport, elle le raconte avec des mots intelligents et elle n'est pas physique quoi.
Ah, ça n'empêche pas la force. Hein,
ah oui, oui, j'ai vu l'œil de Lucas Fournier frisé quand vous disiez, quel est ce mot japano, japonais, japano, japano ou japonais, vous vous y connaissez un petit peu.
Je pensais aux discussions avec Jacqueline de Romilly qui elle faisait de la lutte gréco-romaine.
Oui. Dites-moi, Ricardo, vous seriez quelqu'un qui aurait connu Marguerite Schursenar sur le tatami?
Non, mais j'ai eu vent de quelqu'un qui l'a connu et qui a parlé de Marguerite Schursenar. C'est dans les mémoires de Michael Jackson que j'ai trouvé quelques pages concernant la célèbre écrivaine férue des Américaines.
Ah, ouais.
Des Amériques.
Et alors?
C'est Michel qui parle, Michael qui parle dans son journal. À un moment de ma vie.
Et il parle en français direct?
C'est traduit, mais.
Oui,
peu,
oui.
Mais il parlait français.
Ouais.
En direct de Neverland.
Oui, voilà.
C'est vrai.
À un moment de ma vie, quand je prenais des cours de Jiu-Jitsu dans les Boulder, Colorado, avec le grand maître Adriana Roux, coucou, j'ai rencontré cette grande Great Woman, elle pesait 80 kilos. Comme la technique du maître Adriana Roux, coucou, était de faire combattre des gens opposés du point de vue physique. J'ai dit bien physique, yes, because spiritually we were in the same mood. Donc j'étais souvent désigné à avoir comme adversaire la big dame Marguerite Schursenar. Dans nos combats, j'exécutais mes célèbres pas de côté en imitant la marche. Elle se battait contre l'air sans jamais pouvoir attraper mon frêle corps de danseur.
C'est le moonwalk.
Oui.
Ah, il esquivait, en fait.
Oui, il faisait ça. Son mime.
Refaites-le très bien face au micro, s'il vous plaît, Ricardo. Le mouvement.
Oui. Moi, je l'ai montré là avec mes pieds, mais vous ne voyez pas. Donc.
C'est sous la table.
Donc, souvent, j'ai dû la rattraper pour qu'elle ne tombe pas, car I was very impressionné par sa culture, et je ne voulais pas qu'elle tombe trop bas, la culture. Elle s'attaquait à moi en redoublant sa fury.
Fury.
J'étais son œuvre au noir, disait-elle, sans aucun humour. Sans aucun humour.
C'est hein, attends, sans... oui, elle était noire encore, Mike.
C'est vrai.
Oui.
Mais bat, elle m'a toujours battu. I have to recognize. Elle pourrait toujours, à un moment, trouver la situation pour s'allonger sur moi. Et là, I could not move anymore. C'était son coup de grâce, disait Marguerite, sans aucun humour.
Ah oui, non, mais c'est un contact très précis quand même que vous avez eu avec elle.
Ah oui,
c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle en pense, Marguerite, sur
je pense qu'il était encore enfant. Il était encore dans les Jackson 5.
Michael, il était toujours un enfant.
Élise, saute-moi au cou.
Élise, cherche-moi des poux.
Enfonce bien tes ongles
et tes doigts délicats
dans la jungle de mes cheveux. Élise, saute-moi au cou.
Élise, cherche-moi des poux.
Fais-moi quelques anglaises
et la reine au milieu.
On a 13, 14 ans
à nous deux.
Élise, rien que toi, moi, nous.
Tes 20 ans, mes 40, si tu crois que cela
me tourmente.
Elle est vraiment Lisa.
Jane Birkin et Arnaud et Lisa. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, François Stressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, le roman interactif et le coup de gueule de Serge Joncourt contre les gens qui râlent tout le temps. Le roman interactif, donc, en 3 chapitres et une conclusion, par Patrice Minerve, Hervé Le Tellier, Val Massy et Jean-Bernard Pouy. C'est au premier qu'incombe la responsabilité lourde du genre du roman. Il met en place des personnages, un lieu, un début d'histoire qu'il stoppe sur un moment à suspense, indiquant à l'écrivain suivant trois pistes possibles pour poursuivre. Et ainsi de suite feront les autres joueurs papous. Patrice Minet nous entraîne dans son histoire.
Oui, le chapitre 1 s'appelle « Madame et moi ».
Oui.
Sylvette détestait se cacher dans la penderie, mais avait-elle le choix ? Madame venait de rentrer dans la chambre. Hors de question qu'elle la découvrit en train d'essayer ses vêtements et ses bijoux. Si Madame la surprenait ainsi, c'était le renvoi assuré, et ça, non. Mais on a le droit de vivre quand même.
Mais oui.
La dernière fois, il s'en était fallu de peu. Alors qu'elle s'admirait dans la glace, avec une combinaison tout en dentelle et en soie rose, le rire de Madame avait explosé derrière la porte. Sylvette avait jeté un rapide coup d'œil autour d'elle, à la recherche d'une cachette. C'était sous le lit, le coffre ou la penderie. Sous le lit, trop visible. Le coffre, impossible, trop petit. Restait la penderie. Allons-y. Après tout, elle ne faisait rien de mal. Elle s'amusait juste à porter les colliers de Madame, ses hauts talons et ses robes fanées. On a le droit de vivre, quand même. Une seule fois, elle osa porter des bottines de Madame au dehors, pour le bal Musette des Lilas, le mois dernier. Mon Dieu, quelle allure elle avait. C'était de belles et hautes bottines blanches qui faisaient la jambe fine. Elle avait dansé toute la soirée, recevant invitations et compliments avec aisance, au point d'en oublier l'étroitesse des bottines et ses pieds souffrants. Elle était rentrée, ivre de son succès. Puis, délassant les bottines, elle avait découvert avec horreur ses pieds comprimés en sang et surtout le beau cuir intérieur des chaussures irrémédiablement taché. Elle aurait dû s'arrêter là, mais non. Mais non.
Oui, elle aurait dû, ça c'est sûr. Hein.
Elle n'avait pu s'empêcher de retourner dans la chambre de Madame pour rêver encore une fois, la dernière, promis. On a le droit de vivre quand même. Dans la penderie, Sylvette suspendit son souffle. Pliée en deux, elle devait pencher sa tête et se recroqueviller pour ne pas se cogner au cintre. Surtout, elle priait. Faites que Madame ne vienne pas ouvrir la penderie. Madame était dans la chambre. Elle ne riait plus. Elle gloussait. Visiblement, Madame n'était pas seule. Oh non, cela risquait de durer et je n'ai vraiment pas envie d'assister à cela. Enfin, d'entendre cela, se dit Sylvette. Elle n'était pas au bout de ses surprises. Au bruit des froissements de tissus, des grognements du monsieur et des rires de Madame, l'affaire semblait bien avancée. Quand soudain, Madame s'écria « Ciel, mon mari, Édouard, cachez-vous vite dans le placard !»
Oh là là, elle avait un amant.
La porte de la penderie s'ouvrit précipitamment. Un rayon de lumière et un homme s'y engouffrèrent. Sylvette eut juste le temps de se coller au fond. Elle se retrouva alors nez à nez et même collée sous le fatras des fringues avec l'amant de Madame qui, lui non plus, n'avait pas eu le temps de protester. « Bonjour !» lui dit-il alors entre deux robes. « Je m'appelle Édouard. Avez-vous des allumettes ?»
Ah, d'accord. Ah, on se cache, mais on n'en perd pas sa politesse.
Eh, hein. Oui, oui. Non.
Et alors, à ce moment de l'histoire, trois possibilités de suite pour Hervé Le Tellier.
Voilà. Proposition 1.
Oui.
Sylvette a des allumettes. Ils fument tous les deux au risque de mettre le feu à la penderie.
Oui. Mmh.
Proposition 2. Sylvette n'a pas d'allumettes. Mais comme elle prend feu rapidement, elle profite de la situation.
1-1-1.
Et proposition 3. Ce n'est pas le mari de Madame qui entre dans la chambre, mais un autre amant de Madame.
Alors, ça commençait très innocemment. On imaginait ça dans une grande propriété à la campagne, une petite bonne, gentille, qui essaie les vêtements de sa maîtresse. Ça avait un côté années 30, d'ailleurs.
Oui, tout ça commence comme Genet ou Mirbeau. Et
un petit peu.
Ça termine comme Fédot.
Ou La Biche.
Ou La Biche.
Vous recevez ce joli premier chapitre, oui. Hervé Le Tellier, oui, de oui. Patrice Minet. Et vous avez envie de poursuivre, évidemment.
Évidemment, évidemment. Et j'ai envie de poursuivre avec la troisième proposition.
Vous nous la rappelez ?
Bien entendu. Ce n'est pas le mari de Madame qui entre, mais un autre amant de Madame.
Ah oui, vous semblez que l'embrasement du placard n'était pas une possibilité oui, intéressante.
Fumer dans une penderie me semble une mauvaise idée.
Parce que oui. Tu ne fumes pas,
entre autres.
Et alors, votre chapitre a un titre, lui aussi.
Oui, alors c'était Madame et moi, donc pour...
Oui.
Donc là, c'est évidemment Madame et nous.
Évidemment.
Bien sûr.
Oui.
Mon Dieu, dit Madame, mais je ne t'attendais pas. Par où es-tu rentrée? Et comment sais-tu que mon mari n'est pas là? J'ai vu le chiffon rouge, ma petite Charlotte. J'en ai déduit qu'il était en voyage. Mais, fit Édouard dans le placard, C'est la voix de Charles ? Charles, ça alors, Charles ? Qui est Charles ? Murmura Sylvette. C'est mon oncle, souffla Édouard. Ah ça, si je m'attendais. C'est lui qui m'a présenté Charlotte. Ça alors ? Et au fait, des allumettes, vous en avez ? Mon mari n'est pas là, fit Charlotte. Mais j'ai mis le chiffon rouge par réflexe. En fait, je dois sortir. Il vaudrait mieux se voir un autre jour, mardi par exemple. Arrête, Charles, je te dis que je dois sortir. Arrête, arrête. Poussez-vous, mademoiselle, dit Édouard. J'ai un cintre dans l'œil. Et c'est votre main là, et je vous répète, avez-vous des allumettes ? Des allumettes, répéta Sylvette. Mais pourquoi donc ? Parce que, soudain, madame s'écria, ciel, mon mari ! Charles, cachez-vous sous le lit. Ah non, fit Charles, je ne rentre pas sous le lit, rappelez-vous la dernière fois. Je dois aller dans le placard, d'ailleurs j'y vais, c'est comme d'habitude. La porte de la penderie s'ouvrit, un rayon de lumière et un homme, etc., etc. Sylvette et Édouard eurent tout juste le temps de se coller au fond. Ils se retrouvèrent tous nez à nez, ou pour être précis, nez à menton, menton à front et front à nez. Bonjour, dit Édouard. Bonjour, dit Charles. Oh, Édouard, mon neveu, avez-vous des allumettes ? Et là, trois propositions. Alors, Sylvette a des allumettes.
C'est hein, numéro un, oui.
Ils fument tous les trois, oui, au risque de mettre le feu à la penderie.
Oui.
Proposition 2. Sylvette n'a pas d'allumettes, mais comme elle prend feu rapidement et comme il y a deux hommes, elle profite de la situation. Proposition 3. Ce n'est pas le mari de madame qui entre, mais un troisième amant de madame.
Oh, quelle belle histoire. On est vraiment dans le vaudeville, là,
oui,
maintenant.
Ça commence à être du Marx Brothers dans la cabine.
Oui,
oui, c'est ça. C'est...
Une nuit à l'opéra.
Une nuit à l'opéra, voilà.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils ne s'entendent pas, quoi.
Non.
Madame n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur
non, du placard. Non, personne n'entend rien.
La penderie c'est formidable. Est... Et la penderie est très, très large, quand
oui,
même.
Et,
hein.
et capitonnée.
Et oui, c'est ça. Alors, Eva, évidemment, vous... Vous êtes séduite par ce roman, non, j'imagine.
Je suis tout de suite à fond là-dedans.
Oui.
Ouais.
Et à fond pour quelle proposition de suite ?
Pour la troisième proposition.
Donc ?
Ce n'est pas le mari de madame qui entre dans la chambre, mais un autre amant de madame.
Ben oui, elle est volage, un petit peu, quoi. Très légèrement.
Le terme est faible.
Elle a une vie.
Et donc, le titre ?
Le titre, c'est « Madame et vous ».
Donc, on met peut-être à distance l'histoire. On va voir.
Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre de la distance, à mon avis. « Mon Dieu, je ne t'attendais pas, fit madame. Par où es-tu rentrée? Et comment sais-tu que mon mari n'est pas là ?»« Fichtre, Charlotte, Pierre n'est pas là. On est pourtant mercredi. Je viens toujours le voir le mercredi, tu le sais bien. Il m'a promis un rôle dans sa nouvelle pièce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre un rôle... aussi dans sa vie, histoire de m'entraîner avec toi. Oui, dit Charlotte, la fiction imite la vie, c'est bien connu. Mais puisque je suis là, dit Jules, car c'était Jules, l'oncle de Sylvette, et que Pierre, pour
ah
sa
bon,
part...
Lui aussi ah mon Dieu, il y a un mélange quand même, hein. Oui.
Et que Pierre, pour sa part, est absent, si nous en profitions vite fait, comme si on n'était pas mercredi, mais lundi. Ah, ne put s'empêcher de s'écrier Charles dans la penderie. C'est pour ça que je n'ai encore jamais vu un chiffon rouge à sa fenêtre un lundi, mais plutôt un poisson chinois gonflable de couleur bleue. Et moi, le signe, tous les jeudis, c'est qu'elle retire le pot de yucca du balcon, explique Édouard à son oncle, pour essayer de se le concilier, car on a le droit de vivre quand même. Sylvette, qui en vérité faisait tous ses essayages, parce qu'elle espérait elle aussi de jouer un rôle un jour dans une des pièces de monsieur, tout comme son oncle, décida de changer de place pour se dégourdir les pieds meurtris par les bottines de madame, orteils contre nez avec Édouard. Au même moment, la porte d'entrée s'ouvrit. « C'est elle, mon mari. Jules, allez l'accueillir. Je n'ai pas envie de me montrer. » Sur ce, Charlotte se cacha dans le placard. « Bonjour, vous tous. Qui a des allumettes ?» La proposition première.
Eh oui.
Sylvette a des allumettes. Ils fument tous les quatre au risque de mettre le feu à la penderie. Proposition 2. Sylvette n'a pas d'allumettes. Mais comme elle prend feu rapidement, elle profite de la situation. Proposition 3. Ce n'est pas le mari de madame qui entre dans la chambre, mais un autre, un énième amant de madame.
Alors, on a beaucoup progressé, parce que d'abord, madame a un prénom, elle s'appelle Charlotte. Ce qui était
un grand progrès.
Oui. Mais je trouve, parce que avec madame, elle avait un côté un peu impressionnant. Avec Charlotte, elle rentre plus dans l'univers de Fedot.
C'est vrai qu'on avance. Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'histoire, de votre histoire,
Patrice Minet? Ah, je suis ravi. On dirait un rêve qui se transforme en cauchemar.
Oui, enfin, je trouve que ces braves gens sont tous assez contents de se retrouver aussi, non? Jean-Bernard Pouy, vous êtes un peu extérieur à cette histoire comme moi. Si vous deviez poursuivre...
Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc, je prendrais la 3. Parce que... Ce qui est bizarre, c'est qu'à aucun moment, il y a les dimensions de la penderie.
Et non.
Ils sont quand même assez entassés, nez contre menton. Mais à mon avis, il peut en prendre encore 5 ou 6.
Et elle aurait autant d'amants, donc. Un nouvel amant arrive.
Alors, quelle est la raison des allumettes? Parce que tout le monde se repousse la question de « avez-vous des allumettes ?» Mais quelle est la raison?
Eh bien, il faut demander à Patrice Minet. C'est lui qui a introduit les allumettes, non pas dans la penderie, mais dans l'histoire.
Parce que je trouvais que les allumettes offraient beaucoup de possibilités.
Ah ben, vous voyez.
Mais on s'en sert pas.
Ne vous servez pas. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, de votre propre histoire avec les allumettes?
Ah, mais moi, je crois qu'ils auraient fumé tranquillement.
Ah non, moi, je pense pas. Moi, je crois que l'allumette, en fait, avait une autre fonction qui était d'éviter que la porte s'ouvre. Et donc, on pouvait coincer la porte avec les allumettes. Je voyais plutôt une question technique et mécanique. Parce que tous connaissent le placard par cœur. Ils y sont déjà allés. Ils savent que sans allumettes, elle peut s'ouvrir de manière absolument
inconsidérée. Non, mais on sent qu'Hervé Letellier a une énorme expérience de la situation.
Mais moi, je pensais qu'ils finiraient par être si nombreux qu'on tirerait à la courte paille. Et les allumettes, c'est très bien pour arriver à la courte paille. Et puis, on peut aussi jouer à Marianne Bade avec les allumettes. Vous connaissez ce jeu.
Je ne sais pas s'ils sont vraiment dans cet univers.
Il y a beaucoup de temps à passer.
Oui. Quel titre on donne au roman, Jean-Bernard Pouy?
Il y a plusieurs possibles. J'aime bien la phrase qui apparaît dans le premier chapitre. On a droit de vivre quand même. Ce qui évacue un peu le côté poète-poète qui est après. Bon.
C'est dommage, d'ailleurs, ça l'évacue.
Sinon, une nuit dans la penderie.
C'est un bon titre pour un fait d'eau.
Pour paraphraser les.
Une nuit à l'opéra, oui.
Une nuit dans la penderie.
Une nuit dans la penderie.
Et. Un titre un peu énigmatique qui est le chiffon rouge.
Ah.
Ça, c'est plus Sherlock Holmes un peu.
Oui, il va y avoir un meurtre avec le chiffon rouge, à mon avis.
Peut-être.
Peut-être.
Et aussi la belle dame aux allumettes pour paraphraser la petite fille.
Bon. Oui, on rentrera le yucca aussi, non? C'est un roman avec énormément de possibilités. Bravo!
T'es toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule, joliment. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. Brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, fausse la ferme, mais c'est tout, joli môme. Ta violette et le violon confiolante et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. Qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse des bons dieux, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. Toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'es toute nue sous ton poule.
y a la rue qui est ma boule, jolie môme.
Jolie môme, version la tordue. Dernière séquence de ce numéro des papous dans la tête à vos pamphlets. Rédiger un pamphlet, c'est mettre sur la place publique un mouvement d'humeur personnelle. Lui offrir la chance d'être partagé peut-être, et ça soulage. Prenez le cas Joncourt. Serge Joncourt, il est contre les gens toujours à l'heure, mais il défend les mugs. Il est contre les bébés dans les trains, mais il soutient les dilemmes. Bref, il n'est pas contre systématiquement, il est normal Serge. Il y a des choses qu'il insupporte et d'autres pour lesquelles il fait preuve d'indulgence. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, Serge, je vous sens très très fâché aujourd'hui.
Oui, non, c'est vrai. Oui, c'est une sorte de lassitude un peu énervée, il faut dire, oui. Contre les gens qui sont contre.
Oui. Toujours dans l'opposition, quoi, c'est ça.
Les gens qui sont contre, les gens qui ne sont pas d'accord, ça me met hors de moi. Je ne comprends pas cette manie qu'ont les gens d'être contre et avec tout le monde. Et le pire, c'est qu'il y en a partout. L'époque, je le crains, est à la contradiction, je vous assure. Aujourd'hui, dès qu'on émet un avis, il y en a toujours pour vous dire qu'ils sont contre. Tenez, l'autre fois, sur Twitter, je poste un avis, comme ça, d'impulsion, vous voyez. Chouette, il neige, vive la neige.
Ouais.
Ouais, il neigeait.
C'était beau.
C'était beau, c'était dans le Jura. Enfin, bon, bah. Eh ben, j'ai reçu 200 commentaires de gens qui étaient contre. Contre la neige, sans doute. Enfin, j'aime autant vous dire que ça râlait. Entre celui qui s'était foulé la cheville et l'autre qui n'avait pas les pneus neige. Entre ceux qui étaient coincés dans le train et ceux qui n'avaient plus l'électricité, tout le monde trouvait ça immonde que moi j'ose afficher. Vive la neige. Mmh. Jusqu'au dom-tom, ils se sont plaints. Mmh. Oui, parce que Twitter, c'est...
Ah ben, ça rayonne. Hein.
Ça rayonne, hein.
Ouais.
Il y en a même un qui a râlé parce que j'avais mis un accent grave à neige. Au lieu d'un accent circonflexe. Bon. Oui, alors, là-dessus, écoutez, vous savez ce que c'est que les smartphones, ouais, quand on a des gros doigts.
On n'a pas toutes les touches. Puis
on fait des fautes. Oui. Oui. Mmh. Mais enfin, vraiment, c'est fatigant. C'est fatigant. Alors bon, du coup, j'ai laissé tomber Twitter, hein, pour détendre l'atmosphère.
Oui.
Je suis allé sur Facebook.
Oui,
Facebook
c'est mieux,
aussi.
C'est mieux, ouais.
Et là, j'ai posté des fleurs sur ma.
Des fleurs.
Oui, des fleurs, un bouquet de fleurs sur ma page de profil, quoi. Des,
oui.
Les fleurs, normalement, ça.
C'est apaisant, tout le monde
détend.
Aime.
Mm. Et bien là encore, tout le monde était contre.
Ah bon ?
Sans compter les perfides qui, eux, évidemment, ne s'exprimaient pas. Évidemment. Oui, ils étaient contre les fleurs sous prétexte que. Ça faisait cucu. Alors.
C'est vrai, je ne sais pas si ça vous va très bien.
Ça faisait cucu, hein. On l'a dit, ça faisait cucu. Alors bon, voilà. Alors, je passe ceux qui auraient préféré des roses ou des cyclamènes, plutôt que des hortensias. Mais bon, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les hortensias.
Ouais.
Les hortensias, ouais. Comme à Jersey. Ces bonnes bouilles de fleurs aimantes qui courent le long des murets de pierre sèche dans la lande douce. Les hortensias. Les hortensias, ben oui, c'est ça, les hortensias. Pendant 3 jours, j'ai essuyé des remarques. J'ai été obligé de les enlever. Les hortensias, je comprends pas.
C'est dommage, mais j'adore aussi. Non, non,
oui,
en Bretagne, beaucoup des bleus.
Des bleus,
très, très
oui,
beaux,
bleus,
les hortensias
roses, oui, enfin,
bleus.
Bon, oui, oui.
Oui, oui.
Enfin, vous n'allez pas me contredire. Vous avez...
Mais non, moi, non, j'adore les hortensias.
Ah, d'accord, non, mais,
dans
non,
mon
non,
mais
je...
Ah, non, non, non.
Je crains un moment que le temps monte. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Alors, pareil, bon, l'autre jour, pour être concret, si vous voulez, je disais à ma concierge, enfin, bon. Je dis ma concierge.
Oui.
En fait, elle a horreur qu'on l'appelle comme ça.
On dit gardienne.
Concierge. Bah, alors justement, elle veut qu'on dise gardienne d'immeuble.
Bah oui.
Si vous voyez la taille de l'immeuble. Enfin bon, bref. Mais bon, là n'est pas le sujet. Même si à cause d'elle, la concierge, hein, on s'est engueulé plus d'une fois en réunion de syndic parce qu'il y a ceux qui étaient contre le fait qu'on mette gardienne. Et ceux qui étaient contre, ceux qui étaient contre.
C'est, ah oui.
Ça, c'est une réunion de syndic, quoi. Hein.
Ouais, ouais.
C'est épuisant, épuisant. Alors, pour finir, on a coupé la poire en deux et puis on a mis concierge d'immeuble. Et comme ça, personne n'est content. Mais tout le monde est pour. Enfin bon, pour en revenir à ma concierge d'immeuble, chaque fois je la croise, elle me crie dessus. Elle me crie dessus parce qu'elle en a marre de se baisser tous les matins pour me dégonfler les pneus de mon vélo.
Ah bon ?
Oui.
Elle est violente.
Oui, parce que moi, bon, il faut dire les choses. Désolé. Je garde mon vélo au pied de l'escalier. Verrouillé à la rampe, hein, sur les premières marches. Allez savoir pourquoi, elle est contre. Donc, tous les matins, quand elle tombe sur mon vélo, elle me dégonfle les pneus du bas, seulement. Remarquez.
Il n'y en a qu'un à l'arrière. Oui, vous savez combien non, de pneus
c'est une image.
Il a un tricycle, il a des pneus encore.
Oui, enfin, ça dépend dans quel sens est placé le vélo. Soit je mets la tête en bas. Enfin, bon, vous voyez. Remarquez, bon, j'ai une pompe, ça tombe bien. Du coup, tous les matins, je suis obligé de regonfler avant de partir. Mais enfin, bon, les gens sont usants. D'ailleurs, c'est ce que je disais à son mari, à la concierge, la dernière fois qu'on s'est engueulés tous les deux. Si votre femme se plaint que mes roues sont trop basses, eh ben elle a quand même dégonflé la selle. Mais bon, comme il n'a pas compris que c'était de l'humour, du coup, le lendemain matin, la brave dame me dégonflait la selle. Je ne sais pas comment elle a fait. Si bien que j'ai été obligé d'en acheter une autre, de selle. Et du coup, eh ben, je la démonte chaque soir, la selle, en plus de dégonfler moi-même mes pneus. L'enquiquiner, ma concierge. Oui, non, c'est vraiment... C'est épuisant. Alors bon, je racontais ça d'ailleurs... L'anecdote, c'est une anecdote, hein, à Bicloun, le marchand de vélo, Bicloun, vous savez, boulevard Bonmarchand.
Ah mais non, Bicloun. Je connais pas.
Bah, quand même, qui connaît pas Bicloun? Bon, enfin bon, je vais raconter ça au marchand de vélo, ne doutant pas que j'allais trouver là un allié, une écoute, quoi. Quelqu'un qui irait dans mon sens, qui peut-être même serait d'accord avec moi, ami du vélo.
On sait jamais, ouais.
Pensez-vous. Il m'a dit, oh, ton vélo, si tu veux pas qu'on te reproche qu'il est mal garé, t'as qu'à dormir avec. Eh bien, du coup, c'est ce que j'ai fait. Le soir même, le vélo, je l'ai monté. Quatre étages, hein, quand même. Je l'ai monté à l'appart. Mais là, allez savoir pourquoi. Quand ma femme m'a vu traverser le salon avec mon bicycle pour aller le ranger entre le calé, si vous voulez, entre le dessus de lit et la couette, elle était contre. Ah non, mais non, mais... Quelle époque, hein.
Quelle époque. Ouais, quelle époque formidable.
Oui, oui. Non, non, j'arrête là, parce que je sens que vous allez me...
Ah non, non, moi je suis d'accord avec vous.
C'est vrai ?
Ouais.
Bon.
Vous avez un point de vue sur lui, je dirais, Dominique.
Eh bien, il pourrait garer sa femme et l'attacher à la rampe de l'escalier tous les soirs.
C'est pas bête.
Ça mettrait tout le monde d'accord.
Ah, oui. Jacques.
Non, je trouve absolument judicieuse l'idée de dégonfler lui-même ses pneus pour emmerder la concierge.
Ah oui, je suis mesquin, j'ai pas l'air, mais...
Oui, on devient, à force de l'opposition, on devient mesquin, c'est vrai.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernaud. À télécharger pendant un an sur franceculture.fr, c'est le podcast en bon anglais. À réécouter 1000 jours directement à la page des papous de ce dimanche, page sur laquelle vous pouvez écrire vos messages, questions, impressions, rubriques, commentaires. Et puis, naviguer dans nos pages vie du club et les livres des papous pour tout savoir ou presque des activités des membres de notre petite bande quand ils ne jouent pas aux papous. Au revoir, je vous laisse en compagnie d'Antoine Perrault pour Tire ta langue. C'est dans quelques instants, passez un très bel après-midi sur France Culture.